Le chemin de la laine.
Maille numéro 2, la tonte.
Le sud Aveyron, pays du Roquefort, est de fait le pays des brebis Lacaune. Plus d'un million de brebis produisent, outre le lait dédié aux caves, plus de 1000 tonnes de laine par an. Si la traite du lait est quotidienne, la tonte, elle, est annuelle. Des équipes de tondeurs tournent de ferme en ferme, raser les toisons des nombreux troupeaux.
Les a un peu l'emmerdé là quand même.
Ah, toujours là, les jours de tonte, c'est pas ce qu'elles préfèrent les brebis. Voilà, c'est des brebis qui font pas mal de mois dans l'année dehors toutes seules tranquilles.
Ah ouais.
Donc c'est un jour qu'ils emmerdent bien.
Ouais. Ouais, c'est pas comme d'hab quoi.
Non, là il se passe des trucs bizarres.
Dans le chemin de la laine maille numéro 1, nous étions avec Vanessa Danglot, éleveuse de brebis. Nous y avons rencontré Étienne Leblanc, tondeur de profession. Il nous parle de son métier.
Moi, je tonds les brebis. Donc, j'ai commencé il y a 8 ans, au début juste pour les attraper, pour les donner aux tondeurs. Et sur le tas, j'ai appris à tondre. Ça m'a plu. Donc, ça doit faire 4 ans que je me suis mis à tondre des brebis. C'est un travail saisonnier. On commence fin février à peu près. On va tondre jusqu'à la mi-juillet. La grande majorité des races de brebis sont tondues une fois par an. Après, il y en a certaines qui produisent énormément où il faut les tondre deux fois. Par exemple, les nez noirs du Valais ou les tonnets marteaux. Dans la région, on fait surtout des brebis Lacaune, des laitières pour le Roquefort et les autres fromages. Donc ça, c'est une race qui donne très peu de laine. Donc la tondre une fois par an, ça suffit. On est un département où il y a plus d'un million de brebis, il me semble. Je crois que c'est à peu près dans ces eaux-là, un million de brebis. Il doit y avoir pas loin d'une quinzaine d'équipes, ce qui doit représenter... à peu près, je pense, une quarantaine de tondeurs professionnels, je pense, sur l'Aveyron. Ouais, il faut bien la quarantaine, cinquantaine de tondeurs pour toutes les faire dans l'année. Ouais. Donc moi, j'ai appris sur le tas. Après, il y a des formations qui sont proposées par l'ATM, l'Association des tondeurs de moutons. Pour tondre la brebis, on utilise la technique Bowen. Donc c'est une technique qui vient d'Australie. Donc on commence, d'abord, on assoit la brebis, qu'elle ait les pattes avant en l'air. On va commencer par découvrir le ventre. Une fois que le ventre est tondu, on va attaquer par un gigot, le dégager complètement jusqu'au bout de la queue, passer derrière l'échine. On redresse un peu la brebis pour lui dégager le cou, un côté du cou, puis l'épaule. En descendant de l'épaule, on va faire les flancs jusqu'à la colonne vertébrale. On passe un coup derrière la colonne vertébrale et là on retourne la brebis en mettant la tête entre les jambes pour pouvoir descendre de l'autre côté. Donc par l'encolure, la deuxième épaule, les flancs, le deuxième gigot. La brebis est relâchée, c'est bon, elle est tondue.
Et du coup, il y a aussi des gestes d'immobilisation de la brebis.
Ça va être les gestes les plus techniques et les plus compliqués à apprendre. Tout se joue sur la contention, donc principalement avec les jambes. Donc, j'ai mes deux mains libres pour pouvoir travailler. Parce qu'il faut tendre toujours la peau pour éviter les blessures. Donc j'ai ma main gauche qui vient tendre la peau aux endroits un peu compliqués et la main droite qui tond. C'est vraiment le jeu de jambes qui fait la contention de la brebis. Moins on utilise les bras, mieux ça se passe. La technique Bowen a été inventée donc par les frères Bowen en Australie dans l'idée de récolter des toisons complètes. Donc c'est vraiment pour la filière de valorisation de la laine qu'elle a été créée, cette technique. Parce qu'on va pouvoir ressortir le manteau d'un seul tenant. Et après, tout ce qui va être la contention, c'est pour éviter que la brebis stresse ou qu'elle ait mal. Tout simplement pour se faciliter la vie. Parce qu'une brebis qui a mal ou qui est stressée, elle va se débattre, ça va nous fatiguer. C'est un métier physique. Assez intense parce que pendant la saison on peut travailler 7 jours sur 7 pendant un bon laps de temps. Donc il y a des moments de tension, de fatigue extrême bien évidemment. Après il y a une excitation, moi ce qui me motive vraiment c'est que c'est un métier technique, on peut toujours affiner sa tonte, on a toujours des petits biais pour mieux maintenir la brebis, pour passer à un nouvel endroit, nous économiser un petit peu de temps. Puis après aussi c'est un métier qu'on fait en équipe. Dans l'équipe, il y a une très bonne ambiance, donc c'est aussi du bon temps passé entre collègues, entre copains. Les repas sont toujours très joyeux, on est vraiment bien accueillis dans les fermes. Donc voilà, on passe par plein d'émotions différentes, c'est un métier très vivant. Après, il peut y avoir de l'agacement quand les brebis sont dures à tondre ou qu'elles sont très excitées et qu'elles nous font mal. C'est un métier qui peut être douloureux, on prend tous les jours des coups de patte, des coups de tête, c'est pas toujours joyeux. Puis c'est satisfaisant aussi de voir les bêtes repartir tondues, belles, propres, en bonne santé. Elles repartent pour un an tranquille. Il y a un côté satisfaisant quand même là-dedans. Ouais.
Maintenant, c'est un métier où il faut être rapide.
Allez, mon petit gars.
Oui. matin, nous, on avait 200 brebis à tondre. On est venu à deux tondeurs. On avait donc une personne pour nous les attraper. Le chantier s'est plutôt bien passé. On peut perdre parfois beaucoup de temps à faire venir les brebis au niveau des tondeurs. Là, elles ont été dociles, elles sont venues toutes seules. Pour les 200 brebis à tondre, on a commencé un peu après 8 heures et à midi, c'était fini en ayant fait 3 pauses.
Après une matinée passée à tondre les brebis et un bon repas, c'est au tour des deux béliers du troupeau de passer entre les jambes d'Étienne et sous la tondeuse.
C'est un peu plus compliqué les béliers.
Ça met un peu plus de temps parce que c'est... Bah déjà c'est plus gros, hein, tout simplement.
Ils sont costauds. Donc quand ils sont calmes, ça va. Mais dès qu'il y en a un qui bouge un petit peu, c'est plus dur à tenir, quoi.
C'est plus fatigant, le bélier.
Après, la laine en général est très bonne à tondre sur les béliers.
En tant que tondeur, Étienne Leblanc est bien placé pour avoir une vue d'ensemble du chemin de la laine. Proche des éleveurs, il voit ce qu'elle devient et comment beaucoup d'entre eux regrettent sa sous-valorisation, mais constate aussi une certaine dynamique locale actuelle de la filière laine.
Je passe sur une centaine, je pense, de fermes sur la saison. La grande majorité sont désolés, donc certains mettent la laine au fumier. Depuis un ou deux ans, il y a des transporteurs qui se remettent à acheter la laine, mais 10 centimes le kilo, donc ce qui représente rien du tout. Pour se rendre compte, une brebis Lacone a du mal à produire 1 kilo de laine par an. Donc ça veut dire qu'un troupeau de 600 bêtes aura 5 ou 600 kilos, ça fait 50 euros. Sachant que nous, on prend quasiment 2 euros pour tondre une brebis, le revenu de la laine est complètement minime par rapport au prix de la tonte.
Et quel lien vous avez à la laine ? Qu'est-ce que ça représente pour vous ?
Une frustration, un gâchis. Quand j'ai commencé ce métier, je ne savais pas du tout ce qui advenait de la laine. Et à cette époque-là, j'ai appris qu'elle partait tout en Chine pour être retraitée, retravaillée et revenir en France. Je trouvais ça déjà un peu étonnant. Mais bon, avec les chemins de la mondialisation, on ne comprend pas toujours tout. Et surtout, j'ai été étonné du prix ridicule qui était proposé aux éleveurs. Après, il y a quelques années, peut-être 4 ou 5 ans, le marché asiatique a décidé d'arrêter d'importer de la laine française. Parce qu'elle était récoltée de manière pas assez propre. Apparemment, on avait trop de paille dans les ballots de laine. Donc la laine s'est accumulée dans les hangars. Pour nous, pour notre métier, c'est une perte de sens. En fait, qu'on récolte une matière noble avec laquelle on peut faire énormément de choses. Et la voir se dégrader et s'accumuler sans aucun débouché, c'était un peu attristant quoi, de voir ça. Donc là, je suis plutôt heureux quand il y a des actions locales qui se montent. Il y a quand même plusieurs artisanats qui reviennent petit à petit autour de la laine, mais ça absorbe une quantité minime en fait, de la production lainière qu'on a en France. Il y a bien sûr quelques cheptels qui ont été épargnés par ça. Par exemple, les mérinos dans les plaines de Croc, leur laine a toujours été utilisée. Sur notre territoire, on n'a pas ou très peu de mérinos. Je disais, on a beaucoup des brebis Lacone ou des brebis des rouges, du Roussillon par exemple. Cette laine est moins reconnue pour les qualités textiles, elle est un petit peu plus épaisse, le brin est plus court que chez la mérinos, mais elle a énormément de qualités quand même, par exemple pour la matelasserie, pour l'isolation, pour le feutre. Elle a un très bon ressort, elle est très recherchée là-dessus. Enfin, elle pourrait être très recherchée là-dessus parce qu'elle a des très belles qualités, mais malheureusement, la plupart part au fumier aujourd'hui. Et ça, moi, ça me désole personnellement. Je trouve que mon métier a beaucoup moins de sens.
Tiens-le.
Je tiens.
Tu as fait dans son cou. Un peu.
Allez, mon gros.
Prêt pour la saison.
Voilà, c'est reparti pour un an.
C'était Étienne Leblanc dans le chemin de la laine maille numéro 2, la tonte. En tant que tondeur dans le sud Aveyron, Étienne nous parlait de son métier et des caractéristiques de la laine Lacone. Nous découvrirons, en suivant le chemin de la laine, différentes utilisations de cette laine aux multiples vertus.
Maille suivante, le fertilisant.
Avec Fertilaine, les interviews et montages de la série Le chemin de la laine ont été réalisés par Alex Guérel de Radio Larzac en partenariat avec le Parc naturel régional des Grands Causses, avec la complicité de Roxane Willem-Jams, chargée de mission attractivité et développement sociétal, et Manon Lila, chargée de mission économie circulaire. Merci à Étienne Leblanc pour son accueil et son témoignage.